Bonjour. Le 4 octobre dernier, la chaîne Arte diffusait un document du cinéaste Jean-Luc Léon intitulé « Un marchand, ses artistes et ses collectionneurs ». On y suivait jusque vraiment dans leurs négociations les plus secrètes un couple de marchands d'art parisiens, Marianne et Pierre Naon. Alors ce film, c'est peu de dire qu'il a fait mouche puisqu'il a fait rire, il a intéressé beaucoup et il a aussi fait grincer pas mal de dents, notamment dans les milieux de l'art parisiens. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un grand document vérité? Est-ce qu'il s'agissait d'une simple farce, d'une bouffonnerie? Ou est-ce qu'il s'agissait d'une charge délibérée contre l'art contemporain en général? C'est ce que nous essaierons de nous demander dans cette émission en nous arrêtant sur quelques images de ce document qui posent beaucoup de questions à la fois sur le documentaire et sur le marché de l'art. Nous le ferons en votre compagnie. Pierre Naon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes, comment faut-il dire, le héros ou la victime de ce film?
La victime.
La victime, donc vous nous direz tout ça. Alors, face à vous, il aurait été logique d'avoir Jean-Luc Léon, qui aurait pu vous répondre, mais pour des raisons qui lui appartiennent, il n'a pas souhaité venir. Donc, c'est vous, Thierry Garrel, bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes responsable des documentaires à Arte, qui avez porté ce film du début à la fin.
Enfin, à la 7 Arte, mais
seulement à la 7 Arte, sur la partie française.
Oui, effectivement, porté
donc, c'est vous qui expliquerez un peu la démarche qui a été celle de Jean-Luc Léon. Et tout ça se passera sous le regard de Guillaume Durand, bonjour.
Bonjour.
Qui est à la fois journaliste, homme de télévision, collectionneur, fils de marchand de tableaux. Donc il y a beaucoup de titres à avoir des avis, des opinions sur ce document. Alors on y reviendra dans 5 minutes, mais d'abord une petite séquence d'actualité. Cette semaine était celle des grèves. À la télévision, on a beaucoup parlé des grèves. Il y a plusieurs manières de parler des grèves à la télévision, surtout des grèves des transports. Il y a le point de vue des usagers et le point de vue des grévistes. Alors, nous avons choisi de faire comparer deux séquences de télévision de deux chaînes, TF1 et France 3, portant sur une grève un peu plus ancienne, la grève des nettoyeurs de la gare d'Austerlitz. Et nous l'avons fait comparer à des lycéens du lycée Jean Monnet de la Queue-les-Yvelines, dans les Yvelines précisément.
Une gare parisienne où s'accumulent les ordures. Depuis une semaine, les agents de nettoyage d'Austerlitz sont en grève. Ils protestent contre le licenciement d'un des leurs et réclament le paiement d'heures supplémentaires. Olivier Galzi, Marc Félix.
Une autre grève empoisonne la vie des usagers de la gare d'Austerlitz. Grève des employés du nettoyage. 10 jours de grève, des détritus partout. À Austerlitz, Antoine Guélot, Laurent Sobad.
Il a parlé d'un mouvement de grève qui empoisonnait les usagers de cette gare. Donc tout de suite, on sent qu'il veut montrer la grève comme étant un peu une calamité, quoi. Et il se place plus du côté du public qui est mécontent.
Dans la présentation du sujet de France 3, la présentation est plus complète. On a les faits, on a où ça se trouve, on a pourquoi, on a le comment, enfin on a tout en fait.
Les immondices s'accumulent au fil d'un conflit social dans l'impasse. Son motif tient au non-paiement de quelques heures supplémentaires.
Les raisons de la grève sont énoncées entre deux phrases de mécontentement par le narrateur, entre deux images fortes. Donc elles sont totalement noyées.
Et surtout, ils disent quelques heures non payées. Et le quelque, je trouve qu'il est clairement mis entre guillemets.
Pour quelques heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, ils ne devraient pas faire la grève. Je trouve que c'est un peu ça qui est dit dans le reportage.
Et même beaucoup d'heures supplémentaires non payées. C'est en tout cas ce qu'affirment les personnels en grève d'USP, la société sous-traitante qui assure en temps normal le nettoyage de la gare.
Les travailleurs ici qui font plus de 169 heures de travail. En dehors de ce contrat qu'on passe avec l'USP, on n'a pas à rentrer et à interférer à l'intérieur du fonctionnement de l'entreprise USP.
Déjà, il y a un débat. On a le directeur de la gare d'Austerlitz qui parle. Ensuite, on a les grévistes. Il nous est expliqué clairement la situation. Alors que sur TF1, on savait rien.
Le dirigeant syndical, on le voit en plongée. Et en plus, on le voit au milieu des tas d'ordures. Donc, on le voit vraiment dans son élément. Le directeur de la SNCF, enfin de la gare d'Austerlitz, je crois, est vu en contre-plongée, ce qui fait que ça grandit son image. Et en plus, par derrière, on voit les tableaux d'affichage qui sont activés.
La direction de l'USP dément totalement les arguments des grévistes. Pour elle, toutes les heures ont été payées.
Dans la présentation du sujet de France 3, on a l'impression que tout ça se passe bien, que les grévistes sont pas méchants, en fait, puisqu'on on voit un gréviste jouer avec un sifflet, on les voit... Normaux.
Vous avez changé de métier là?
Momentanément, oui, je fais un petit peu de propreté dans la gare, si on peut dire.
Alors, qu'est-ce que c'est ça?
Monsieur Dard, bonjour.
pas faire ça, on est en grève là.
Non, oui, non. Mais moi, pour mes clients...
Ça ne vous concerne pas ça, madame.
Votre client, c'est la boutique.
C'est la boutique.
Vous balayez devant votre boutique.
Vous balayez là-bas.
On n'avait rien à faire par ici.
Ces actions sauvages de nettoyage ne sont pas vues d'un bon œil par des grévistes attentifs à ce que leur mouvement ne soit pas brisé.
On peut remarquer que lorsqu'il y a un seul gréviste, ils font un plan très rapproché. Et comme tous les grévistes, enfin une bonne partie de grévistes commencent à s'accumuler autour de la commerçante, ils font un plan large afin de montrer que la commerçante est totalement dissimulée. Ils montrent les grévistes comme des agresseurs de la commerçante.
Et à la fin, la réaction de Jean-Pierre Pernaut, c'est qu'il a l'air exaspéré. C'est habituellement un journaliste n'est jamais, enfin, se pose jamais les mains comme ça.
Je reviens maintenant à l'automobile.
Il y a aussi la dernière phrase de Jean-Pierre Pernaut qui dit « Revenons à », comme si c'était un petit intermède, que c'était pas la vraie information.
Le retour plateau, c'est tout un art. Ce qu'on appelle retour plateau, c'est en jargon de télévision après un reportage. C'est ce qu'on vient de faire, là, voilà, après un reportage. Retour au plateau. Hein, le nombre de choses qu'on peut faire passer dans un sourire, une intonation, une...
C'est vrai que je souris d'ailleurs de la manière dont TF1 est encore le diable, les services publics ont bien compris le problème des grévistes. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est là.
Absolument. Votre sourire est très éloquent. Plus éloquent. D'abord, on va y venir. On va y venir donc tout de suite, sans plus attendre, à ce document sur vous, Pierre et Marianne Nahon. Mais je crois qu'avant de voir le premier extrait, il faudrait peut-être, Colombe, retracer l'histoire, enfin en quelques mots, la manière dont ce document a été tourné.
Oui, le tournage a commencé en septembre 1994 à ce qu'on appelle la FIAC. La FIAC, c'est la grande rentrée des collectionneurs, c'est une grande manifestation artistique, tous les galeries se regroupent à Paris. Il va durer plus d'un an jusqu'en fin 1995. Rien que le tournage. Plus de 6 mois de montage et il sera...
6 mois de montage.
Plus de 6 mois de montage. Une centaine je crois qu'il a tourné 65 jours, dont 35 avec vous, Pierre et Marianne Nahon, et plus de 200 heures de rush, donc bien 6 mois de montage. Un énorme travail.
C'est-à-dire qu'il a eu plus de 200 heures de chute.
Une centaine.
D'accord. Bien, et alors ce qu'il faut dire tout de suite, parce que ce qui va surprendre les téléspectateurs dans les images qu'on va voir, c'est la qualité parfaite du son. C'est qu'on entend parfaitement les paroles des uns et des autres.
Alors là, c'est grâce à des micros comme celui-là, ce qu'on appelle des micros HF, mais qui sont cachés derrière la cravate de Pierre Nahon, derrière une veste chez Marianne, ce qui donne cette qualité de son exceptionnelle. Et en plus, on ne le voit pas, donc ça a une impression absolument magique. On a l'impression d'être vraiment derrière Pierre et Marianne Nahon.
L'impression magique. D'accord. Donc on va regarder tout de suite le premier extrait, qui est un extrait significatif, à mon sens, du sens général du film, et qui retrace une négociation entre Marianne puis Pierre Nahon d'un côté, et d'autre part Louis Kahn, qui est un de vos poulains, un des artistes que vous vendez. Et donc il est question de la fixation du prix d'un tableau. On regarde tout de suite.
Moi, si je vends ça à 180 000 francs, il y a 10 000 francs pour moi pour chaque tableau. Mais je m'en fous pas, moi. C'est moi qui le fais. C'est le travail monstrueux.
Les deux, là. Tu vois, ces deux tableaux-là, au lieu de 180, parce que 150, c'est pas proche de 120.
Oui.
Et puis, on se laisse une petite marge de possibilités.
Et alors ?
Râle, mais tu vas y arriver, maintenant.
Non, je suis pas d'accord. Ça, écoute, ça revient à un tableau de 10 000 francs, la même figure.
Mais c'est pas comme ça qu'il faut
voir.
C'est un tableau.
Parce que moi, quand je suis en train de les peindre, il y en a 9 à peine, il n'y en a pas un. Tu vois ce que je veux dire?
Tu ne peux pas dire des choses pareilles.
Mais si, c'est de la peinture qui est longue à faire. C'est de la peinture classique, c'est pas n'importe quoi. C'est difficile et long à faire.
Tu qu'on est un succès ou un échec? On est en 1995, il faut être réaliste.
Eh bien, si on a un
succès... Il ne faut pas se gonfler la tête avec des histoires de prix et des histoires comme ça. Il faut être réaliste, il faut revenir aux réalités du marché d'aujourd'hui.
Je pense que 180 ou 150 000, il n'y a pas de différence.
S'il n'y a pas de différence, on met 150 000, écoute. S'il n'y a pas de différence.
On le laisse à 180. Écoute, moitié-moitié, ça me fait 10 000 francs par tableau. Je te jure que c'est rien du tout 10 000 francs par tableau comme ça, Pierre. C'est pas à la main, ils sont tous différents.
150 000, on l'a dit. 150, ça fait quoi?
180.
Ça fait 75.
Eh bien... ça me fait 7000 francs par tableau. Ça coûte même pas le prix de revient en heure.
Ça fait 75. Qu'est-ce que tu comptes par tableau? Ça fait 75 000 francs, puis voilà.
Laisse à 180. Sois pas pressé de les vendre. C'est des tableaux qui sont très longs. très dur à faire. C'est pas évident de réussir, que ce soit à 150 ou 180, c'est pareil.
Non. Non.
Si. Non, non. Bon, si t'as quelqu'un qui est vraiment intéressé, on verra, on baisse. Mais mets-le à ce prix-là, annonce-le à ce prix-là. Je veux que tu l'annonces à ce prix-là. Et si quelqu'un est intéressé, tu baisses. Vraiment un bon collectionneur ou quelqu'un comme ça. Et je baisserai avec toi. D'accord?
Bon, bah écoute.
Regarde le prix des artistes allemands, américains, les moines Crouton, c'est deux fois plus cher que ça.
Non, allemand, américain, peut-être, mais enfin, les Français...
Eh ben, les Français sont aussi bons, maintenant.
Ben oui, ouais.
Hein?
Non.
Ils sont aussi bons.
C'est une question de bon, c'est une question de marché.
Ben oui, ben ça fait rien. On peut essayer, quoi.
Bien, Thierry Garrel, est-ce que cet extrait-là vous paraît bien représenter l'esprit de la totalité du film?
C'est-à-dire qu'on voit surtout la nature du travail de Jean-Luc Léon comme cinéaste documentaire, qui à la fois a un accès privilégié à des protagonistes, hein, dans une situation, à la FIAC, à filmer effectivement une conversation qui en général appartient au privé ou qui est masquée, qui est cachée.
Oui, parce qu'on n'avait jamais entendu ça.
Non, c'est vrai. Avec un dispositif, avec bien entendu l'accord des deux protagonistes, pas seulement d'ailleurs local, puisque sur l'ensemble du film, effectivement, il y a eu de très nombreuses séances de tournage, comme vous le rappeliez, et qui... permettent d'éclairer un aspect des relations entre un marchand et un de ses artistes. Mmh. Moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant. La discussion autour de l'argent, je pense que l'argent fait partie du marché de l'art et qu'il n'y a pas d'obscénité, même s'il y a toujours des gènes, on sait que du côté de l'argent, on a toujours du mal à parler d'argent. C'est un des mérites de ce film aussi, de lever un tabou, et il faut absolument... remercier Pierre Naon d'avoir accepté il y a 2 ans de participer à ce film, de laisser Jean-Luc Léon l'accompagner dans des situations très très variées, dans un grand nombre de tournages, pour finalement éclairer, alors sûrement pas l'ensemble, ni de la personnalité de Pierre Naon et de son travail, ni du marché de l'art, comme on a voulu le faire dire dans les polémiques, mais d'un ensemble de relations triangulaires entre, justement, des artistes, des marchands qui s'occupent de leur avenir et des collectionneurs qui acquièrent les œuvres.
D'accord. Alors, Pierre Naon, pendant le passage qu'on vient de voir, vous portez un micro, donc vous savez que les propos que vous tenez sont éventuellement destinés à figurer dans le film.
Absolument.
Mais il y a une petite question que j'en ai tout de suite envie de vous poser. Est-ce que, là, à cet instant précis, vous vous souvenez encore que vous portez le micro, ou est-ce que finalement, à force de le porter, vous avez fini par un peu l'oublier, ce micro?
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été interrogés par Arte pour participer à un film qui devait s'appeler « Le marchand, l'artiste et le collectionneur ». Et que 2 ans après, on s'est retrouvé avec un film qui était « Le marchand et l'argent, l'artiste et l'argent, le collectionneur et l'argent ». Si on nous avait dit au départ que c'était le sujet du film, on n'aurait pas participé. Ensuite, le réalisateur, évidemment, qu'on a choisi d'ailleurs.
Jean-Luc Léon.
Oui, parce qu'il nous avait montré des documentaires qui nous avaient plu, et comme on nous avait proposé plusieurs réalisateurs, c'est celui qu'on a choisi nous-mêmes. On était parfaitement en confiance, puisqu'il s'agissait d'Arte. Arte, pour moi, c'est France Culture. Donc, il n'y a aucun problème de...
Avec des images en plus, quand même.
Avec des images en plus. On était en tout à fait en confiance. Donc, on nous explique qu'il faut mettre un micro, qu'il faudra nous suivre dans nos pérégrinations chez les artistes, dans les musées, dans les galeries, chez nos confrères, dans les ateliers, etc. Et on est d'accord. On est tout à fait d'accord sur le principe de ce film. Et puis on tourne. La scène qu'on vient de voir n'est pas représentative de l'ensemble du film. C'est probablement la scène la plus documentaire, en effet. C'est la scène honnête. C'est la scène où on assiste à l'élaboration du prix d'une œuvre. On montre aux spectateurs que les œuvres n'ont pas des prix arbitraires qui sortent d'un chapeau, mais qui sont l'issue de la discussion d'un artiste avec son marchand. Et en fonction du marché, en fonction du moment, en fonction d'un certain nombre de choses. C'est une scène parfaitement documentaire, ce qui n'est pas le cas du reste du film.
Très bien, donc on va voir de nombreuses autres scènes du film. Guillaume Durand, un sentiment juste sur cette scène-là?
Qu'est-ce que je peux dire ? Pas grand-chose. Non, je voulais simplement demander à Thierry Garrel, au fond, je suppose qu'il a eu un, il avait un point de vue avant de commencer ce film, puisque personne qui fait un documentaire n'est pas quelqu'un qui arrive sur un terrain vierge et qui va découvrir quelque chose. C'était quoi le point de vue de
Thierry Garrel ? C'est pas moi qui ai fait le film. Non, donc le point de vue, c'est celui de Jean-Luc Léon.
Mais quand il veut pas venir.
Oui, évidemment, tout cinéaste documentaire, effectivement, c'est pas un document, mais un documentaire, c'est-à-dire vraiment un film. À un point de vue, je pense que ce point de vue, il a été clairement, été clairement énoncé au départ. Il me semble, je ne crois pas qu'il y ait là-dessus de misfit. Le titre, d'ailleurs, n'a pas varié, même s'il y a maintenant un article défini qui est devenu indéfini. Dès le départ, Le marchand, l'artiste et le collectionneur, hein, c'était le titre de départ, pour justement rendre compte de cette relation triangulaire. Donc ce point de vue, à mon sens,
Il n'était pas plus précis que ça, le point de vue.
Les questions du marché de l'art sont des questions qui se posent. Du point de vue de la chaîne, en tout cas, quand le projet en a été fait, même si effectivement au départ on avait pensé, c'était Nicolas Philibert, qui est un autre cinéaste documentaire connu, qui vous a rencontré, qui a fait La Ville Louvre, des films comme ça. Chaque cinéaste a son style, on peut dire. Je pense que une partie du débat est aussi viciée par le style.
Je vais préciser, si vous voulez bien, la question de Guillaume Durand. Est-ce que dès le départ, dans votre esprit ou dans celui du réalisateur, à votre connaissance, il était clair qu'il s'agirait d'argent pour 90% du film?
Ah oui, ça je pense, oui. Je pense que dès qu'on parle de marché, il est clair qu'à Arte, nous avons produit des films sur l'art, des portraits d'artistes, avec d'autres. Il était clair que là, il s'agissait, puisque le point d'entrée était un marchand, et que c'est Pierre et Marianne Naon qui ont été suivis pendant un an, qu'il s'agissait de documenter la relation marchande autour de l'art, avec les visions fantasmatiques qu'on en a.
La relation marchand autour de l'art, c'est pas seulement l'argent.
C'est quoi d'autre ?
Ben c'est l'art. C'est l'art. Oui. Ce sont les œuvres. C'est la promotion faite sur les artistes. C'est beaucoup de choses.
On va voir tout de suite un autre extrait du film, alors que vous avez choisi de montrer, qui est à un moment que vous vous trouvez à New York, qui a une vente aux enchères de Sotheby's avec votre épouse Marianne. Puis après, on en dira un mot.
Non. 50. Pas 429.
6500.
Et t'as pas fait,
hein ? Non. 7000.
$8,000,
thank you. $8,500.
Going down. $500. $10,000, now say
11.
$11,000. Say 12.
$15,000, $16,000, $17,000, $18,000, $19,000, and $19,000 has it at $19,000, fair warning, $19,000, $20, $21.
And $21,000 on my right, $21,000, fair warning, sold, $21,000, and that is $5,11, thank you. Bon, vous n'êtes pas venu pour rien.
$4,000.
Bien, alors je crois que sur ce passage précis, vous voulez dire quelque chose de très précis.
Oui, on voit cette scène, en effet, et on la voit sans suite. Or, le propos de Jean-Luc Léon c'était en tout cas ce qu'il nous avait dit dès le départ, on ne verra pas de scène sans suite. On verra à chaque fois un artiste, ses œuvres, l'exposition et éventuellement la vente de ses œuvres. En l'occurrence, on nous voit acheter quelque chose, on ne sait pas quoi. On voit un objet qui est photographié au début de la scène, on peut penser que c'est cet objet que nous avons acheté, ça n'est pas vrai. C'est pas du tout l'objet que nous avons acheté. Et il s'agit d'une vente Bugatti. Nous avons acheté des objets Bugatti pour une exposition Bugatti que Léon a filmée, mais pas montrée dans le film. Alors ce qu'on verra, et vous pourriez peut-être aussi montrer cet extrait, c'est une scène qui se passe dans le jardin, dans la cour de la galerie Avance, où on voit une voiture, on ne sait pas ce qu'est cette voiture, et des gens autour. C'est à l'issue de l'exposition, mais l'exposition, on ne la voit pas.
Alors on va la voir tout de suite.
J'ai l'impression que les gens qui viennent nous voir ici
Si, si, on vient de voir la Bugatti dans le dans la cour de votre...
Je pensais qu'on allait voir voilà. La suite, c'est pas la peine. Oui.
Non, mais c'est pour montrer effectivement que la vue de la voiture...
Alors là, on n'a pas vu d'exposition du tout. Il y a une voiture, mais on ne sait pas ce qu'est cette voiture. En fait, c'est la voiture d'un invité qui est venu avec la dernière Bugatti. On est presque dans le parking. On est derrière la galerie. On n'a pas eu accès à l'exposition. Et c'est un peu le cas général de ce film qui montre des transactions, qui montre des ventes, mais qui ne montre jamais les expositions que nous avons pu faire pendant ces deux années.
Non, je comprends bien le point, parce que dans l'ensemble du film, effectivement, qui condense en l'organisant comme une histoire, hein, pour un spectateur, pour qu'il y comprenne quelque chose, c'est un film, je rappelle quand même, qui fonctionne sans aucun commentaire, hein, c'est un film documentaire de cinéma vérité, on pourrait dire, dans cette tradition-là au moins. L'idée quand même est de documenter un ensemble de situations qui sont les situations dans lesquelles vous travaillez, vous faites votre travail, c'est-à-dire acquérir, négocier,
exposer.
Oui, mais il y a effectivement le vernissage d'Armand, il y a l'exposition au Salon de Mars, la FIAC. Donc je veux dire, l'ensemble des facettes de ce métier, dans ces différents lieux en tout cas, et montrer l'articulation simplement au niveau du montage, c'est le propre de la construction d'un récit filmique, d'un documentaire. Il ne s'agit pas là d'un rapport, ni d'un rapport de police, ni d'une caméra de surveillance, ni d'un travail de paparazzi, comme on pourrait le penser. C'est un travail fait par un cinéaste documentaire qui s'est imprégné d'un milieu, qui cherche à en rendre compte, et qui après, avec le matériel qu'il a pu réunir, sans aucune malice à mon sens, et en tout cas de manière ouverte, organise par le montage un récit qui permet de comprendre des choses.
Moi, ce qui m'a amusé, d'abord le film est intéressant. Bon, oui. Point numéro un. Je crains qu'actuellement on n'ait pas très bien expliqué aux gens pourquoi il y a un problème. Il y a un problème parce que je vais essayer de le faire. Il y a un problème parce que effectivement Pierre et Marianne Naon sont décrits dans le film comme d'horribles gougnafiers qui ne parlent d'argent avec des artistes qui sont obsédés par l'argent, des collectionneurs qui ne pensent qu'à l'argent. Bref, l'art contemporain, ce ne serait qu'une gigantesque valse entre les francs, les dollars, des marchands qui seraient des macros, des artistes qui seraient obsédés par l'argent, etc., etc. Que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, c'est bon. Deuxièmement, quand à la fin d'un film, il y a écrit « Nous remercions pour leur aimable collaboration Pierre et Marianne Naon », c'est quand même, je dirais, et je suis pas là pour être leur avocat, parce qu'on se connaît pas particulièrement, même si j'ai rencontré plusieurs fois, c'est quand même, d'une certaine manière, le moins qu'on puisse dire, humoristique, car c'est un espèce de portrait d'eux que vous faites qui ne les arrangez pas, et après vous dites, nous les remercions de leur aimable collaboration. La seule musique, ou pratiquement, qu'il y a dans le film, c'est une musique qui est « Tout va très bien, Madame la Marquise », qui évoque la crise, qui évoque cette idée, encore une fois, que tout ça est une question de gens mondains. D'ailleurs, on voit des plans sur des ministres, des plans sur des journalistes connus, qui c'est pas moi, hein, c'est François Giroud. Tout un milieu qui est décrit d'une manière, j'allais dire, presque ethnologique.
Anthropologique, il y a une dimension anthropologique.
Qui veut essayer de démontrer son ridicule. Alors moi, je ne veux pas vous critiquer là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que, et ça c'est simplement mon point de vue, parce que je ne suis pas Pierre et je ne suis pas Jean-Luc Léon, ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui est dommage, c'est que le cinéma et la télévision ne s'intéressent à l'art contemporain, en gros, je parle contemporain, pas l'art en général, que pour le flinguer et le régler un problème d'argent. Depuis les années 80,
peut-être à TF1.
Écoutez-moi. Il n'y a pas tellement eu d'émissions sur l'art contemporain à Arte. Il y a eu des émissions sur des grands artistes comme Bacon, que des choses comme ça, mais très peu de choses. Ça se résume toujours à cette équation art-argent. Et je terminerai. Ce que je voudrais vous dire, ça part. Il y a actuellement un mouvement dans la société française qui existe. Dans son bouquin « Vie et mort de l'image », Régis Debray s'en prend à l'art contemporain. Dans un article récent de Jean Baudrillard dans Libération, il s'en prend à l'art contemporain. Dans une revue d'esprit,
ça a toujours existé. On s'en est toujours pris à l'art contemporain.
Quand on a l'intelligence de pouvoir produire un documentaire là-dessus, je pense que c'est pas honnête totalement de résumer tout ça à une histoire d'argent. Voilà ce que je dis.
Le documentaire ne traite pas de l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer, sûrement pas, et je pense qu'il ne faut pas demander à un film documentaire de traiter de tout.
À ce moment-là, peut-être qu'il aurait fallu dire pourquoi Armand est aussi un grand artiste. Parce que c'est pas parce qu'il est passionné par les problèmes d'argent.
Je pense que Pierre Naon le dit bien. Pourquoi Armand est un grand artiste.
Pas le film.
Il le dit dans le film.
Oui, mais pas le film.
Oui, enfin, il dit surtout dans le film que si Armand était mort il y a 20 ans ou 30
non,
ans...
Non, jamais dit ça. Jamais non. dit ça. Ah. Si vous voulez sortir l'extrait, sortez l'extrait. J'ai jamais parlé de mort d'Armand.
Non,
si,
vous, il avait
s'il avait disparu ou s'était produit.
Non, mais on va prendre cet extrait-là, parce que...
N'en parlons pas.
Et parlons d'un autre extrait, alors, si vous voulez bien, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre. C'est un extrait dans lequel vous vous rendez visite à un autre de vos artistes, qui s'appelle Dado, dans son atelier, et vous lui demandez de faire sur un de ses tableaux une retouche, mais pas n'importe quelle retouche.
Je trouve confus. Je ne peux pas faire 9 tableaux avec un personnage de
vous. Non, mais je t'ai jamais demandé.
Les épaules et la tête.
Non, non, mais je t'ai jamais demandé ça.
Je suis obligé de la faire, du faire non, du métaphysique dans cette affaire-là.
Oui, mais là, c'est du fouillis, c'est pas du métaphysique.
Ah, non, mais c'est un bon départ.
Et les petits tableaux, tu les as pas terminés.
Je tout virer.
Ouais. Celui-là, peut-être que si tu lui enlèves juste le zizi, là, il est bien. Hein. Je vois tellement pas l'intérêt de ça. Tu
en peinture, une bite, ça se lave à la térébenthine. C'est pas comme dans la vie privée.
Elle est tenace.
Ah oui, ça. Non, il va partir.
Franchement, elle sert à rien. Hein.
Et si demain, non, il m'emmerde encore en me disant fais un mode réaliste, des petits tableaux, je partirai de la galerie, puis c'est tout. On n'en parlera plus.
Mais comment tu mangeras?
Ben, je me démerderai, je mangerai mes poules.
Alors ça, je dirais que c'est l'extrait qui a peut-être le plus choqué les gens qui connaissent
je
mal les
milieux de l'art.
Alors, attendez, juste une chose. Oui. Donc, des gens ont été très choqués. Ce qui a suscité, par exemple, dans Le Monde, une réponse du sculpteur Alain Kirilli, qui s'en prend violemment au film de Jean-Luc Léon, et qui dit « Si dans le film, le peintre Dado accepte, à la demande de son marchand, d'effacer un zizi, tous les artistes ne cèdent pas si facilement à une telle suggestion. » Cette séquence arrive sans aucune précaution et pourrait faire croire le contraire. Dans la majorité des cas, l'artiste imposera ses vues jusqu'à la rupture.
Est-ce que vous pouvez continuer ?
Après ?
Oui, parce que justement, il dit dans cet article, il dit que probablement, au final, Dado n'a rien voulu changer. S'il a changé quelque chose, c'est parce qu'il a bien voulu le changer.
Bah oui, mais on le voit changer là.
On le voit changer, mais on ne voit pas le tableau terminé.
Non, c'est vrai.
Le tableau est resté dans son atelier. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ce tableau.
Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Il est devenu le tableau que Dado avait envie de faire.
Ça veut dire que
dans le début de cette séquence,
le zizi a été effacé ou pas effacé ?
Dans le début de cette séquence. Attendez. Dans le début de cette séquence, on voit un autre tableau, un grand tableau, alors vous ne l'avez pas projeté, c'est dommage, on voit un autre grand tableau dans lequel je fais aussi une réflexion sur l'équilibre du tableau, etc. Et Dado répond, alors ça, l'équilibre, il est parfait et ce que tu remarques là n'est pas justifié. Et puis ça s'arrête là. On passe à un autre tableau. À ce moment-là, je lui parle du zizi en question et en deux secondes, il trempe son pinceau dans l'essence et il efface le zizi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui n'était pas du tout sûr de ce zizi en question. Mais pas du tout. Et que s'il n'a pas changé le tableau précédent et que là, il a envie de le changer, c'est qu'il a réellement envie de le changer. Quant aux réflexions qu'un marchand fait à son artiste dans l'intimité d'un atelier, mais ça existe depuis qu'il y a des rapports entre les marchands et les artistes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de cette scène, c'est que nous sommes en l'occurrence, à 15 jours d'une exposition de Dado, que nous devons faire une importante exposition de Dado avance. On est allé pendant 18 mois voir les tableaux de Dado et voir où en étaient les 10 ou 12 tableaux qu'on devait présenter à cette exposition. On est à 15 jours et quand on arrive, on s'aperçoit que les tableaux ont été repeints, dégradés, c'est comme ça. Bon, très bien. Donc, d'où ma tête un peu étonnée, d'où...
Une certaine tension.
On est à 15 jours d'une exposition, on a photographié il y a 3 semaines ou il y a un mois des tableaux qui n'existent quasiment plus. Et on est confronté à des tableaux nouveaux, pas terminés, et non seulement pas terminés, mais détruits d'une certaine manière. Notre étonnement est là, et puis la discussion est là. Alors, quant à la malhonnêteté de cette scène, elle réside dans le fait que, après avoir parlé du zizi, etc., il y a une coupure. Et comme si c'était dans la continuité, une scène où Dado est seul et où s'adresse à la caméra avec des questions de Léon qui parle et qui excite l'artiste pour que l'artiste montre sa dépendance. Et ça, c'est très malhonnête.
Mais je ne vous suis pas, moi, sur ce point, je ne vois pas où est la malhonnêteté. Mais enfin bon, mais en tout cas, sur cette scène, puisque j'ai vu aussi l'écho qu'il y en a eu.
Quand Dado dit après, je vais manger mes poules, on a l'impression que c'est une conséquence directe
L'acte de censure grave. Alors là-dessus, évidemment, quand on lui demande d'effacer un zizi, la symbolique joue énormément, la castration, le marchand serait là pour castrer ses artistes. Moi, ça me semble une vaine polémique. Hein. Je pense que, comme vous le rappeliez, dans toute l'histoire de l'art, il y a eu une relation de de temps en temps de domination, de temps en temps, mais il y a un dialogue, il me semble, ça me semble normal. Je dirais dans nos métiers à nous aussi, entre un producteur et un réalisateur, il y a des discussions, nous faisons des visionnages, nous travaillons, ouais. Nous disons non, là c'est moins bon, etc. Ça me semble naturel, et la séquence existe là, même si elle est sur un mode qui fait un peu scandale, en tout cas ça fait image. Et
voilà, c'est ça, on le voit.
Ça fait image, voilà. Et c'est donc l'idée.
Normalement, on sait bien que ça se passe comme
mais
ça.
Mais le travail d'un documentaire, c'est de rendre lisibles des choses. Bon.
Et, mais pas de les inventer.
Mais je vois pas ce
la séquence inventé, finale excuse-moi. Est une séquence inventée par le réalisateur. Nous ne sommes plus présents, c'est peut-être tourné à un autre jour. Mais... Et puis on a l'impression que c'est la suite logique de la scène. C'est inventé, c'est plus du documentaire.
Le problème...
Je voudrais connaître votre sentiment sur l'image là, de l'artiste moi, qui est face à la scène à la Terre
Argentine. Moi, j'ai connu ça toute ma vie, je veux dire.
Ernst veut retoucher ses tableaux parce qu'on lui disait, il faut m'enlever un arbre là ou m'en mettre un personnage.
Oui, non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est de donner un documentaire comme ça qui arrive à un point T au moment de l'histoire de l'art, face à des gens qui effectivement ne sont pas au courant. Quand Thierry Garrel dit maintenant, tout ça on le sait, c'est extrêmement connu, pour les gens qui regardent le film, ils ne le savent peut-être pas.
C'est pour leur montrer.
Et c'est là, alors là où je reviens à un autre problème qui est un problème de fond, c'est le côté no comment, c'est-à-dire le personnage qui fait ce documentaire, pas de commentaire, c'est-à-dire il se met dans une situation qui est soi-disant objective et qui en fait ne l'est pas. Car s'il rajoutait dans un commentaire, de toute façon dans l'histoire de la peinture, ce genre de suppression est quelque chose d'extrêmement banal, du coup il n'y aurait plus d'événements.
Oui, enfin, tandis que là on a l'impression que c'est pas le propos de Léon, ça. C'est pas le propos de Léon.
C'est pas son propos, il fait un film, il fait pas une thèse.
Mais Léon,
il fait un reportage, il fait un film, ça s'appelle un film.
Oui, mais et donc là où on confronte deux réalités, celle de M. Léon à celle de M. Armand. Armand est un grand artiste, Léon non.
Si Godard faisait un... Je ne suis pas d'accord avec vous. Et d'ailleurs, Pierre Nanon, qui avait vu le premier film de Jean-Luc Néon, Les Lapirovs passent à l'Ouest, qui a été fêté dans le monde entier, a vu comme c'était un film formidable, amusant, drôle.
Je ne peux pas dire la même chose de celui-là.
Je ne peux pas dire... Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a strictement aucun talent. Ce n'est pas ça que je veux dire.
Vous avez même dit au début qu'il était très intéressant.
Oui, c'est un des documentaristes qui compte actuellement en France, un des 15 ou 20 documentaristes de tout premier ordre.
Moi, j'aurais un scrupule, si je parlais d'Armand, de résumer Armand à ce qu'on voit dans le film.
Mais vous en parleriez en journaliste, c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, je dis, c'est pas le même métier. Je ne crois pas que c'est exactement le même métier.
Non, enfin, imaginez que le même Léon vive à la Renaissance et fasse sur Léonard de Vinci un film dans ce
film.
Moi aussi, j'aurais adoré. Mais il aurait été bon à ce
moment. La question est bien celle-là. Que, excusez-moi, je ne vous connais pas, donc je vous appelle comme ça. Que, à part socialement, que documente-t-on de notre temps? Et c'est ça la question qu'aujourd'hui les documentaristes se posent. Il est clair qu'on documente facilement la misère, il est clair qu'on documente facilement les crises. Il y a des domaines que l'on documente très 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 peu. On documente très peu le monde de l'économie, on documente très peu le monde du politique, on documente très peu le monde de l'argent, on documente très peu les relations entre les êtres. On en dit beaucoup de choses, on les documente peu. Je pense que le travail des documentaristes ces dernières années, avec à travers un certain nombre d'œuvres importantes, ça a été de tourner un miroir à la société, d'offrir aux spectateurs, téléspectateurs ou autres, une certaine image de ce monde, notre monde.
D'accord. Je voudrais peut-être qu'on en vienne à un autre aspect, parce que vous êtes très présent dans ce film, vos artistes sont très présents, mais alors aussi des clients, des collectionneurs qui viennent sur vos stands et qui achètent. Je voudrais qu'on voit un petit extrait.
Vous savez, j'ai pas un pourcentage gigantesque. On a mis des prix vraiment sympas pour que ça soit justement accessible aux gens de la génération de combats, etc. Si je vous fais 22 000, c'est sympa.
Je voulais vous faire une offre de 20 000.
C'est pas tout à fait assez.
Non. On pourrait faire quelque chose.
Asseyez-vous là un instant. On peut acheter le tabouret et le miroir. Quel prix on fait?
Eh ben, on va faire,
sympathique.
On va faire 40 000 francs pour les ensemble.
Bah, ça vaut 20 000, hein, le tabouret.
Bah oui. Si tu fais... l'autre vaut 25.
Oui, ça fait 45.
Ça fait 45. Oui, 40.
Parce que moi, j'ai proposé pour le miroir, je fais une offre à madame pour 20 000.
Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas tout. Hein. Et elle a accepté l'offre?
Non, j'ai pas accepté. Il dit oui, regarde.
Un petit peu, oui.
On a été vraiment raisonnable, c'est ce que je lui ai dit, mais je pense que vous avez compris. On a des prix quand même sympathiques.
Oui.
Hein?
Oui.
Non, tout à fait. C'est
des prix de première, première fois qu'on voit ces objets.
Non, les deux choses, voilà, 37 000 francs.
Je peux faire un tour
Oui, oui. Mais évidemment. Évidemment.
À tout à l'heure. Il est drôle. Oui. Brillant négociateur. C'est inattendu, hein.
Ils sont d'où?
Je sais pas du tout, mais Suisse. Il m'a dit Suisse, mais il s'installe à Paris.
Alors, je vous fais... c'est pas du tout loin de vos questions que vous proposez. 35 000 pour, au lieu de 37.
D'accord.
C'est bon?
D'accord.
Bon, donc ce qu'on voit en gros, c'est deux œuvres d'art dont le prix baisse de 10 000 francs en quelques minutes. Il y a juste juste une question, moi, de curiosité. Les clients, là, les collectionneurs, est-ce qu'ils sont prévenus qu'ils vont être dans un film
Oui, bien sûr. Et certains ont refusé, je crois, d'être filmés. Eux ont accepté.
Ils sont d'abord filmés. On leur demande l'autorisation d'utiliser leur image. Certains disent oui, certains disent non.
Comme tous les protagonistes dans ce genre de tournage, ils signent un papier disant j'autorise, etc.
Sauf qu'ils signent un papier.
Oui, bien sûr.
Alors, en l'occurrence, sauf les artistes, c'est-à-dire les principaux concernés, qui n'ont rien signé et qui, en effet, refusent maintenant ce film.
Et c'est ça, refusé dès le début d'être filmé, je crois. Il a été filmé une fois en préparation de la Biennale de Venise et puis il a demandé à Jean-Luc Léon de ne pas figurer dans le film.
J'ai pas entendu parler de ça.
Non, mais attendez, les artistes, ils refusent d'être filmés, mais enfin, quand même, ils acceptent de porter des micros.
Ils n'ont pas refusé d'être filmés, mais en voyant le document, qu'il les transforme, et aujourd'hui, ils en sont à refuser que leur image soit diffusée.
Mais ce qui m'étonne quand même sur ce point-là.
Ce qui veut dire que concrètement, s'ils obtiennent satisfaction, le film ne pourra plus jamais être rediffusé ni vendu à l'étranger.
C'est vrai qu'il y a actuellement de la part d'un des artistes.
De deux artistes, Louis Kahn et Armand.
Avant, je suis pas informé du second, excusez-moi, de Louis Kahn, effectivement, nous avons reçu un courrier. Ce qui m'étonne dans ce processus, d'ailleurs, c'est que quand le film a été donc fabriqué, comme vous le rappeliez, monté toute l'année 96, puis montré aux principaux protagonistes ce qu'un cinéaste documentaire qui se respecte fait toujours, à l'égard des personnes avec lesquelles il a passé une espèce de contrat moral, quand même, qui lui ont donné un accès, même s'il n'y est pas obligé, moralement, lui, il se sent obligé. Quand le film a été présenté tant à Pierre Naon qu'à Louis Kahn, aucun problème. Il n'y a eu aucun problème.
Enfin, aucune. Il a demandé des modifications qui ont été acceptées
moi aussi,
par un
évidemment. Et moi aussi, évidemment, j'ai demandé des modifications.
Pas la première fois que vous l'avez vu. Bon, et après, vous en avez demandé certaines.
J'en ai demandé dès la première fois. Dès la première fois, elles ont été refusées. Non, elles n'ont pas été refusées. Non. On m'a dit, on va essayer.
Ça concernait. Ce n'est pas des modifications, c'est des ajouts.
Ce n'est pas des ajouts, c'est des modifications.
Bien sûr, oui. Non, mais je veux dire, donc, sur le film tel qu'il est, pas de problème. La même chose, bon, des ajouts, oui, si vous voulez, on peut parler.
Et les suppressions. Et l'une a été faite, d'ailleurs.
Les suppressions, c'est très tardif. Et c'est après qu'une polémique se soit développée dans Paris.
Lors de la première projection.
Bien postérieurement à cela.
On ne va pas revenir peut-être là-dessus. Alors, à votre sens, si ça n'a pas posé de problème à la première projection, qu'est-ce qui a posé problème?
Moi, je pense, et il faut en dire un mot quand même, on a vu quand même aussi des communiqués AFP de la COFIAC, on a vu des papiers disant
scandale. C'est le comité qui regroupe les galeries qui organisent la FIAC chaque année.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'elles ont dit à l'AFP, ces galeries? Vous pouvez nous expliquer?
Elles ont demandé qu'on change le titre du film, qui était un marchand, ses artistes, le marchand, l'artiste, ses collectionneurs. Elles ont demandé que ce soit un marchand, ses artistes, ses collectionneurs, montrant qu'elles s'excluaient un peu de la représentation qui était faite du marché de l'art.
C'est-à-dire que dans le petit monde professionnel du marché de l'art, et de la FIAC tout particulièrement, le film a fait scandale. Et d'un seul coup, effectivement, Et donc, à l'intérieur de ce milieu, un certain nombre de pressions se sont exercées, y compris à l'égard de Pierre Naon. Vous avez encore, je crois, une convocation, d'ailleurs, c'est au moins ce que disait le communiqué le 28 octobre devant la COFIAC. Bon, avec de temps en temps, d'ailleurs, des échos qu'il y a eu dans la presse qui, vous le signaliez vous-même dans l'article que vous avez fait pour le Figaro, en tout cas, c'était le surtitre, prennent des aspects des tentatives de lynchage. On sait que c'est un milieu, comme tout marché dans lequel de l'argent est en cause, qui est un milieu où des pouvoirs s'opposent, et peut-être qu'à cette occasion, un certain nombre de problèmes qui existent dans le milieu du marché de l'art tentent de se régler. À mon sens, c'est une polémique qui est absolument latérale au film, qui peut-être amène à un moment donné à ce que les protagonistes qui ont accepté, qui l'ont écrit d'ailleurs, vous l'avez écrit il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont accepté quand ils ont vu le film de considérer qu'il était, il était acceptable comme ça et qu'il n'avait en tout cas aucune revendication morale nouvelle à formuler à l'égard d'un réalisateur. Et comme vous le rappeliez en ce qui concerne Jean-Luc Léon et vous-même, sur un point qui a fait scandale, une scène qui a fait scandale, Jean-Luc Léon, de lui-même, a été amené, après que vous lui ayez demandé tardivement, mais quand même demandé, compte tenu du scandale, de la retirer car elle pouvait être mal interprétée. Il l'a retirée naturellement, ce qui me semble être le minimum du contrat moral qui est passé entre quelqu'un qui s'est laissé filmer et quelqu'un qui l'a filmé.
Attendez, pour les téléspectateurs qui n'ont... Même ceux qui ont vu le film sur Arte, puisque cette scène n'a pas été diffusée sur Arte,
elle n'existera plus dans le film. C'est ce que nous avons convenu ensemble avec M. Laon et Jean-Luc Léon.
Et que nous ne la diffuserons pas ici, puisque notre principe ici, c'est de ne commenter que des images qui sont passées à la télévision. Il faut quand même rappeler en un mot en quoi consistait cette scène qui a été coupée. On y voyait une conversation entre vous-même et Louis Kahn, dans laquelle, en des termes assez ambigus et qui pouvaient prêter à confusion, vous faisiez allusion à la possibilité de vendre deux fois la même œuvre.
C'est faux. Alors, il ne faut pas interpréter des choses.
Non, sur les pratiques autour du point rouge, qui est bien connu, le point rouge étant la manière de réserver une œuvre dans une galerie ou dans une exposition. Voilà, l'œuvre est vendue, elle est réservée.
Si vous êtes d'accord tous les deux, on la diffuse.
Je voulais simplement répondre à une chose à propos de notre acceptation sur ce film. L'histoire de la COFIAC, etc. Armand et Louis Kahn ne font pas partie de la COFIAC. Ils ne font pas du tout partie de cette histoire-là. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus que ce film soit diffusé.
Postérieurement, sa diffusion, c'est vrai.
Plus que ce film soit diffusé. C'est tout. Ça veut dire simplement que ce film ne correspond pas à l'image ni de Louis Kahn ni d'Armand et qu'ils se sont sentis trompés par ce réalisateur.
Celle qui voudrait donner à tromper, c'est une autre affaire.
C'est ce qu'ils ont compris.
Je voudrais qu'on dise un dernier mot, parce que l'heure tourne malheureusement. Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur les intentions du film. Tout à l'heure, vous nous avez dit il n'y a pas d'intention moqueuse dans le...
Non, il y a un mode, il y a un style. Je pense que Jean-Luc Léon, et c'est une de ses grandes qualités comme cinéaste documentaire, c'est un cinéaste de la comédie. Je citais tout à l'heure Les Lapirov passent à l'Ouest, qui transforme en comédie son précédent film, l'émigration d'une petite famille russe aux États-Unis qui deviennent américaines et qui retournent ensuite en Russie 10 ans plus tard.
Je voudrais qu'on voit un échantillon de la comédie selon Jean-Luc Léon, qui essentiellement repose sur la musique. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, tout va très bien, Madame la Marquise. La musique revient 4-5 fois dans le document, et y compris.
C'est une musique leitmotiv, oui, c'est vrai.
Y compris dès le générique, on va voir.
Tu sais, qu'est-ce qui se passe
au... Les tableaux de Basquiat chez Templon sont faux.
Oh. Non,
alors c'est pour ça qu'ils ne sont pas chers, peut-être.
Voilà. C'est ça, donc c'est là où ils les achètent pas chers.
Oui, moi non plus, je trouve ça incroyable. Moi, en tout cas, je peux dire que je me laissais prendre à tous les coups, alors là. Toi aussi ?
Je ne sais pas, ces tableaux, je ne les aime pas. Ces tableaux, ils sont...
Mais c'est mauvais pour tout le monde, hein, ce genre de bruit ou de... C'est embêtant, hein ? Très embêtant. Tout le monde meurt de faim. Et alors, pourquoi on ne met pas ça là ? Ça, Georgette. Et les couverts sont sur les tables, Georgette ? Ah bon, d'accord.
Bon, ça a quand même un sens précis, surtout dès le générique. Ça veut dire que le marché de l'art est miné de l'intérieur, les écuries sont en flammes, le château est prêt de s'écrouler, et pourtant on danse sur le volcan, quoi, en gros.
Oui, enfin, comme l'extrait le montre bien, Le pré-générique fait une allusion rapide à ce qui a été en son temps un scandale en 94, à la FIAC 94.
Qui n'avait aucun rapport avec la galerie Pierre et Marianne.
Qui n'avait aucun rapport, qui dit simplement à la FIAC qu'il semblait qu'il y ait des faux Basquiat. Bon,
dans une autre galerie.
Dans une autre galerie, bien entendu, on le dit bien. Et puis, c'est une affaire qui a...
Enfin, on le dit bien, mais on la voit, elle, en parler. Donc, on se dit, c'est peut-être tout ça.
Elle reçoit l'information.
C'est peut-être le même milieu.
C'est un sujet, d'ailleurs, sur lequel on revient, puisqu'à la FIA 95, on retrouve les protagonistes, et notamment la personne qui a, d'un seul coup, énoncé cette information, en tout cas, et qui s'en explique. Il est clair que le marché de l'art régulièrement défraie la chronique par éventuellement des pratiques qu'il peut y avoir qui ne sont pas toujours des pratiques recommandables. Je ne vois pas en quoi là le montage, certes la musique est un leitmotiv léger et le film a une patte de comédie comme ça, on l'a annoncé comme tel.
Je voudrais que vous nous disiez un mot sur le film, Guillaume Durand, si vous voulez bien. À votre avis, qui est-ce qui s'en sort le plus mal ? Ce sont les Naons ou c'est le marché de l'art contemporain et l'art contemporain tout entier ? Vous l'avez vu ?
Bien sûr. Moi, je me souviens d'un film de Fellini qui s'appelait Prova d'orchestra. Et dans le film de Fellini, justement, on se moquait d'un orchestre et des tensions qui existaient dans un orchestre, mais on ne déconsidérait pas la musique. Parce qu'il avait fait attention à ça. Ce que je reproche, moi, qui ne suis pas là par solidarité avec Pierre, etc. Non, mais je le dis parce que c'est important. Je ne veux pas faire, parce que ce serait horrible de dire au nom de l'art contemporain, on va nier le talent de Jean-Luc Léon. Non, ce que je lui reproche, c'est de déconsidérer fondamentalement une partie de la pratique contemporaine qui est une des choses qui est les plus contestées actuellement. Quand il y a un film d'Éric Rochand, les journalistes défendent le film d'Éric Rochand, même s'il ne marche pas. Quand il y a, j'en dirais, de l'art contemporain depuis une dizaine d'années, il y a une partie de la presse qui est déchaînée, considérant que tout ça, ce ne sont que des histoires d'argent. Et ce que je reproche au film, c'est de considérer que l'art contemporain, ce ne sont que des histoires d'argent.
Mais qui a soufflé sur les braises de l'argent? Je repose la question. Qui a parlé de scandale?
Mais ce n'est pas le problème.
Parce que quand il y a un film de Jean-Luc Léon aussi, un certain nombre de journalistes dans les différents papiers, qu'il y a eu dans Le Monde, dans Libération, etc., spécialistes effectivement de la discipline artistique, montent au créneau pour en parler. Du film, on a assez peu parlé, à part votre article à vous, Daniel Schneiderman dans Le Monde, qui essaye d'expliquer comment le film fonctionne.
Tout à l'heure, la relation, je trouvais ça, alors, du point de vue documentariste, la relation entre un jeune collectionneur qui négocie.
Tout à fait intéressant.
Je trouve ça, effectivement, très véridique.
Très véridique.
Il y a une négociation d'argent entre quelqu'un qui vend des tableaux, quelqu'un qui a envie de les acheter, celui qui a envie de les acheter veut le payer le moins cher, etc. etc. Je trouve ça bien.
Si Pierre Naon est un des premiers marchands de France, comme Alessi Lagarry-Beaubourg, a été et est toujours en tête, même si effectivement elle fait des jaloux, c'est pas pour rien. Et les artistes le disent dans le film, c'est parce qu'évidemment les Naon ont un savoir-faire, un sens des affaires, une capacité à gérer ces relations entre des artistes et des collectionneurs. Le film montre ça. Qu'on s'en scandalise parce que par ailleurs on pense que ça peut porter tort à. Je dirais, ça c'est le rôle naturel de la télévision de mettre en cause la société dans laquelle on vit.
C'est pour ça que le débat au-delà du film, c'est-à-dire ce que vous ajoutez, vous, au film, n'est pas dans le film. C'est-à-dire qu'on est à un moment de la société française...
Les gens voient le film. Il y a des artistes qui voudraient chercher à en empêcher la diffusion.
C'est un autre problème.
Ce sont des tranches combats après la diffusion, surtout. Le film a été diffusé, personne ne s'y est opposé à la diffusion. Pas plus M. Naon ou M. Kahn, je ne comprends pas.
Pierre Naon, quelles que soient les réserves, on a bien vu qu'elles étaient nombreuses que vous faites sur ce film. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il puisse continuer à être vu?
Non, parce que c'est un mauvais document. Non, mais aujourd'hui, je dis non.
Mais vous avez écrit le contraire.
Non, mais aujourd'hui, on peut changer. Vous savez qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Aujourd'hui, compte tenu de ces polémiques, compte tenu du mal que peut faire ce film...
L'usage que certains veulent en faire,
du mal en général.
Peut-être.
Et je crois que Guillaume Guiraud l'a soulevé. Il y a là-dessous une idéologie. Il y a une idéologie sous
cette... Je ne crois pas que ce soit le fait d'Arte. Je pense que certains lisent ça.
C'est le fait de Léon.
Mais c'est
pas le fait d'Arte, c'est le fait de Léon.
Mais quand on vous entend, on aurait l'impression de... que ce film est un film poujadiste contre l'art contemporain.
Écoutez, Thierry, si jamais,
c'est très étrange,
vous aviez fait un film sur Ambroise Vollard, à propos de l'exposition Picasso, vous auriez obtenu exactement le même résultat. Est-ce que ça veut dire que Picasso n'est pas
un peintre? Non, mais on n'a pas dit du tout.
Mais c'est ce qui ressort du film.
Très bien.
Gens qui connaissent l'art contemporain,
on aura compris que vos approches sont relativement inconciliables, que entre le documentaire que vous défendez, je pense qu'il faut le redire, c'est un documentaire intéressant, passionnant, puis qu'on le déteste tout le monde en tout cas l'a regardé. Ceux qui ne l'ont pas regardé, je pense, auront envie de le regarder après notre émission, mais ils pourront pas.
Personne
n'a envie de faire un film d'entreprise. On n'est pas là pour être.
J'espère que nos téléspectateurs seront arrivés à se faire une opinion sur ce film. Jean-Jacques Vannier, bonjour.
Bonjour. Alors, ce qui m'a amusé aujourd'hui, plus que jamais,
rangez vos petites affaires,
dans l'émission, c'était cette recherche des gentils et des méchants. D'entrée, M. Durand parlait de la diabolisation de TF1 et donc prenait gentiment la défense du méchant TF1 contre les gentils FR3, France 3. M. Garrel apparemment est un gentil, mais de temps en temps il y avait quelques sourires qui montraient quand même qu'il sait ce qu'il veut. Et ensuite M. Naon a priori était un gentil marchand d'art, qui a affaire a priori à un gentil réalisateur, et puis le gentil réalisateur nous montre que le gentil Naon en fait est un méchant Naon. Le méchant Naon réalise qu'alors que le gentil réalisateur est un méchant. Et voilà. Et la question que je me pose, et là où je n'ai pas la réponse, on va se la reposer avec cet extrait d'émission.
Quant à la malhonnêteté de cette scène, elle réside dans le fait que, après avoir parlé du Gigi, etc., il y a une coupure, et comme si c'était dans la continuité, une scène où Dado est seul, et où il s'adresse à la caméra, avec des questions de Léon qui parle et qui excite l'artiste, pour que l'artiste montre sa dépendance. Et ça, c'est très malhonnête.
Alors la question que je me posais après cet extrait, c'est qu'est-ce qui est malhonnête ? J'ai pas compris. C'était d'exciter un artiste ou bien de montrer sa dépendance ?
C'était de montrer une scène dans la continuité, comme si nous étions présents, à côté,
d'accord,
alors que nous ne l'étions pas, et qu'il était seul avec l'artiste, pouvant faire ce qu'il voulait avec lui, sans qu'on soit là pour le protéger.
Oui. Donc, la moralité, je l'ai noté, c'est qu'il ressort à la fin de l'émission que gentil, méchant, de partout.
Ah, vous êtes très, très forte moralité. Merci à tous d'avoir accepté de faire ce débat qui n'a pas toujours été facile et à la semaine prochaine. Voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonné, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.